Sonar, l'écho de l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sonar, l'écho de l'histoire. Avant de commencer, on tenait à vous remercier d'avoir écouté les deux premiers épisodes de Sonar. On est très heureux de partager ces récits avec vous, et après avoir exploré le thème spatial, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une page de l'histoire amiénoise du 19e siècle. Amiens, ou Samar-au-Brivat de son nom antique, qui signifie « pont sur la Somme », est la capitale historique de la Picardie et préfecture de la Somme, connue pour être la ville de résidence de Jules Verne, ainsi que pour sa cathédrale gothique Notre-Dame d'Amiens. Pourtant, derrière cette image de carte postale, un pan de son histoire reste méconnu, celui de sa transformation urbaine au 19e siècle. Car à partir de la seconde moitié du 19e siècle, Amiens connaît un bouleversement démographique dû au début de la révolution industrielle. C'est l'industrie textile qui fait la fortune d'Amiens. Et cette industrie, nécessitant beaucoup de main-d'œuvre, attire des populations venues de la campagne et grossissent les rangs de la ville qui bientôt se retrouve bien à l'étroit. Cette économie textile amiénoise est en difficulté au 19e siècle, en concurrence directe avec le textile anglais et les importations coloniales bon marché. De plus, la main-d'œuvre peine à embaucher. Sous l'impulsion des élus municipaux et l'appui d'industriels, la ville va se métamorphoser progressivement, afin d'élaborer, selon les mots de l'historien Jean-Marie Viscard, une politique urbaine cohérente pour contrôler toutes les fonctions de la ville dans un but de maintien de l'ordre, d'efficacité, de rentabilité et d'hygiène. Cette politique ne va pas sans susciter des conflits et bouleversements sociaux. Des heurts se multiplient et la répression des pouvoirs publics s'intensifie. On assiste à des phénomènes de vagabondage ainsi que des modes de vie marginaux échappant au contrôle de la ville. En parallèle, des stratégies de contournement et associations politiques radicales forment des résistances à l'ordre moral. Pour aborder ce sujet, nous sommes allés à la rencontre de deux étudiants chercheurs en histoire, Florian Julien et Coralie Doua. Pour cette première partie, Florian, qui a travaillé sur les marginaux à Amiens dans la première moitié du 19e siècle, nous a donné rendez-vous sur la place au fil, au cœur du centre-ville d'Amiens.
Et je peux bien toucher mon humain pour licher la cathédrale d'Amiens. Ici que Paris, Rome ni Venise n'ont point une église qu'elle y rivalise. Et contre Frocha, moi mieux n'aime pas.
Vloche que chez Gaffran Picard.
Salut Florian, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve ?
Ouais, du coup on est derrière l'hôtel de ville, donc avant à la place de Sparking, c'est là qu'il y avait la place de la mairie en fait. L'actuelle place de la mairie, en fait, il y avait une grosse grille qui fermait l'hôtel de ville. Et l'essentiel des gens avant se retrouvaient du coup à l'arrière où il y avait donc c'était encadré de plein de petites maisons, il y avait un grand marché et les foires annuelles qui allaient jusqu'au beffroi. Vraiment, ça n'avait rien à voir avec maintenant. La plupart du centre-ville a été démoli au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut s'imaginer là, on est entre le beffroi et la mairie qui se font face. À l'époque, ils se faisaient déjà face, évidemment. Mais par exemple, le gros hôtel des postes, il n'existe pas au 19e siècle. En fait, l'arrière de la mairie, c'est une espèce de grande place avec plein de petites bicoques alignées les unes à côté des autres qui vont jusqu'au beffroi. En fait, ça fait une grande place rectangulaire sur laquelle il y a souvent des échoppes, etc. Les maisons ont souvent des caves aussi. D'ailleurs, il y a eu un effondrement il n'y a pas très longtemps. Entre la mairie et le beffroi, là, juste derrière la mairie. Et parce qu'en fait, il y a de nombreuses caves qui servaient aux commerçants. En fait, ils avaient les portes des caves qui donnaient directement sur la rue. Donc, hop, ils ouvraient leur cave, ils sortaient leur échoppe de leur cave. Il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, le beffroi sert de prison municipale, donc en gros de cellule de garde à vue. Après, pour les vraies peines, après les condamnations par le tribunal, on allait dans la prison départementale qui était à la Haute-Oie, à la place de l'actuelle caserne de pompiers, en face de l'ancienne grille de l'hôtel de ville, justement.
Pour Estouellette, point d'ablayeux, il aime appuyer sa tailleux, il portait sous l'habit de sa père, comme est sous rouillère, un homme bon et fier, il ne dit jamais je pourrai plus tard,
vloche que chez Gaffran Picard.
Ouais, donc en fait, on est ici parce que beaucoup de marginaux de l'époque, en fait, passaient du temps ici entre les mains de la police après qu'elle les ait arrêtés, quoi. ou quand ils venaient eux-mêmes parfois la provoquer. On va revenir là-dessus. Puisque au 19e siècle, les marginaux, comme beaucoup d'autres populations, étaient la cible du délit de vagabondage qui a été édicté dans le code pénal en 1810.
Rapport du commissaire Bouvry, 9 janvier 1849. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai mis aujourd'hui à la disposition de monsieur le procureur de la République, comme prévenu de vagabondage, l'année Marie Mater. Cette fille résidait au Havre, où elle a perdu son mari il y a peu de temps. Se trouvant sans ressources, elle a obtenu un passeport avec secours de route pour retourner dans son pays, avec sa jeune fille âgée de 2 ans. Elle prétend avoir perdu son passeport il y a 2 jours, et arrivée à Amiens, ne pouvant aller plus loin parce qu'elle était sur le point d'accoucher, elle s'est présentée à l'Hôtel Dieu, où elle a été refusée. Elle est venue alors me trouver, préférant aller en prison plutôt que de rester sans secours.
Qu'est-ce que le vagabondage, du coup ?
C'est une excellente fenêtre pour étudier la vie des marginaux, puisque il s'agit d'un délit édicté dans le code pénal qui s'est avéré être un arsenal juridique hyper important au 19e siècle, en fait. C'était un délit très flou qui permettait d'enfermer toute personne qui avait ni domicile ni travail, et donc permettait de vider la rue de tous les marginaux potentiellement gênants, mais aussi d'enfermer tout ouvrier qui serait un peu trop longtemps au chômage, ou n'importe quel migrant économique. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on est considéré comme migrant à partir du moment où on ne vient pas de la ville dans laquelle on se trouve. Les passeports servaient à se déplacer entre les villes, plus resserrés, quoi. Du coup, oui, si tu venais de Rouen ou de Lille et que tu n'avais pas de papier, bah, tu étais enfermé en prison et ensuite tu étais reconduit à la frontière du département et tu devais retourner dans ta ville. Du coup, en fait, ce délit de vagabondage, c'était un peu l'outil juridique anti-pauvre par excellence.
Il aime sa pouille, sa canton, et somme ses enfants plus maison. Il treuve chez grand marronnier d'âge, qui dotait de l'ombrage à le creux de sa village. Plus bien chez Arbe et nos boulevards, vloche que chez Cafran Picard.
À partir de quelle source as-tu pu analyser ce phénomène ?
Vu qu'il est interdit d'être sans domicile et sans travail, pour étudier les populations SDF, il n'y a qu'à aller fouiller en fait dans les nombreux cartons de rapports quotidiens de commissaires ou dans les cartons du tribunal correctionnel d'Amiens, où on trouve toutes les personnes qui ont été arrêtées pour vagabondage. En fait. À noter que les archives de police, à ce niveau-là, sont plus détaillées que les seules archives de justice où on enregistre juste les gens condamnés pour vagabondage. Parce que les commissaires, eux, vont dire où les personnes ont été arrêtées, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont fait, etc. Et ça permet d'approcher vraiment un quotidien de ces marginaux. Du coup, les cartons d'archives, en fait, c'est une expression pour dire... C'est des cartons, en fait, où sont empilés plein de vieux papiers, plein de vieux rapports. Tu vas aux archives, tu demandes tel carton, on te ramène un gros tas de papiers tout jaunes, et puis tu fouilles dedans, et tu notes tout ce qu'il y a d'intéressant, et après tu le rends.
Rapport du commissaire Pourchel, 15 juin 1843. Le sergent de ville a arrêté hier, sur les 9h30 du soir, le nommé Duhamel, tisseur, qui rôdait sur la place de la mairie, qui était sans asile et sans moyen d'existence, qui l'a conduit au Beffroi, où il a déjà été retenu les 7, 8, 10, 11, 12 et 14 de ce mois.
Qui sont ces vagabonds et dans quel contexte historique intervient ce phénomène ?
Du coup, moi, dans mon travail, je parle beaucoup des années 1840-1850. C'est une époque où il y a une importante crise économique en Europe. On la connaît surtout à travers la grande famine d'Irlande, qui fait des millions de morts en Irlande et pendant laquelle la couronne d'Angleterre est très heureuse de se débarrasser d'autant d'opposants. Mais bref, à Amiens, l'économie textile à cette époque se porte assez mal et il y a beaucoup d'ouvriers à domicile qui vivent dans les campagnes, qui vivent de la proto-industrialisation, qui se retrouvent sans travail, qui ont faim. Et du coup, ils immigrent massivement en ville. Ils viennent chercher du travail, mais souvent ne trouvent rien. Et du coup, se retrouvent sans domicile, souvent contraints de mendier, ce qui est interdit aussi par le délit de mendicité. Et donc, ils finissent beaucoup en prison. On les contraint à retourner dans leur village avec les passeports ou les secours de route, ils appellent ça. C'est des indemnités pour qu'ils rentrent à pied dans leur village, en fait. Après, eux vont essayer de revenir en ville ou d'aller dans une autre ville, par exemple. Au bout d'un certain nombre de condamnations, on peut les condamner à la surveillance de la haute police. C'est un peu l'équivalent du contrôle judiciaire d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il faut qu'il pointe au commissariat régulièrement. Donc il faut qu'il soit dans une ville précise. Et à partir du moment où où ils partent de cette ville et où ils ne pointent pas au commissariat, là, il y a un nouveau délit qui fait qu'ils vont pouvoir retourner encore en prison. Tous ces délits qui vont s'enchevêtrer, vagabondage, mendicité, ils vont passer leur temps à faire des allers-retours en prison et à être baladés de ville en ville. En fait, c'est un peu ça, finalement, qui participe aussi de la création de nombreux vagabonds sur les routes. En fait, eux, ils veulent se fixer dans une ville, vu que les villes ne veulent pas d'eux. Elle les renvoie sur les routes et en fait ils sont beaucoup plus nombreux à se retrouver et à errer sur les routes parce qu'ils peuvent s'installer nulle part en fait.
L'âge beau de Boulogne a vu des schlacs, ceinture une fouée jamais tic-tac, bien froidement il dit pis déclare que j'ai une jolie mère, mais que j'en ai point rare, et de virer Dieu pis des canards,
v'louche que j'ai qu'un franc picard.
Et donc, que se passe-t-il pour ces vagabonds et ces marginaux ?
Au niveau de l'hôtel de ville, en fait, ce que pas beaucoup de gens savent, c'est que au niveau du rez-de-chaussée, sur la partie droite qui s'avance, là, c'est là qu'il y avait le poste de police avant. Donc, c'était quelques pièces avec des fenêtres, c'est là d'où les sergents de ville, les gardiens de la paix de l'époque, partaient faire leur ronde, etc. Ça arrivait souvent que les personnes sans domicile, pendant les moments durs de l'hiver, demandent à la police de les enfermer. Par exemple, c'est Firmin Leban qui est très souvent arrêté. Entre 1830 et 1860, il cumule à peu près 15 ans de plein de petites peines de prison comme ça pour vagabondage, etc. On le retrouve souvent dans les petits papiers de la police et il vient souvent briser les vitres du poste. Et un jour, par exemple, il arrive, il veut se faire enfermer, mais les vitres sont déjà cassées en fait. Du coup, il va casser les vitres d'un cafetier à côté, juste devant la mairie, pour se faire enfermer. D'autres actes assez intéressants, certains vagabonds qui s'en prennent au réverbère en fait. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a assez peu d'éclairage en ville. On commence à installer les réverbères, etc. Il y en a accrochés à l'hôtel de ville devant le poste de police, par exemple. Et du coup, il y a des vagabonds, parfois par provocation, pour se faire arrêter, mais parfois aussi comme une forme de résistance en fait, à l'intrusion de l'œil des pouvoirs publics dans la rue. En fait. Ils vont détruire ces réverbères pour les vagabonds qui n'avaient pas le droit d'être SDF. Ils étaient arrêtés particulièrement la nuit, parce que c'était les seuls qui étaient encore dehors. Ils ne pouvaient pas dormir n'importe où. Donc, ils pouvaient briser un réverbère et se cacher après à proximité, et replonger la rue dans l'obscurité pour ne pas se faire arrêter. Quand les vagabonds s'en prenaient au réverbère du poste de police, là, c'était clairement une agression. Ça plongeait la rue devant le poste de police dans l'obscurité. C'était très stressant pour les sergents de ville.
Comme commerçant, c'est un martyr. Il ne veut jamais pour s'enrichir. Un fouetteur, il peut vistette. C'est un homme honnête, dont le fauteuil s'est fouette. Sous à sous, pilière à lière.
V'loche que j'ai qu'un franc picard.
Est-ce que tu pourrais nous dire où se rencontraient en fait tous ces marginaux? Où est-ce qu'ils allaient quand ils étaient à Amiens?
Eh ben oui, il y avait des formes de sociabilité. Alors. C'était évidemment pas en centre-ville, mais il y avait par exemple à Amiens, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres villes du Nord et à Paris par exemple, il y avait des carrières souterraines qui s'étendaient sous le quartier de Saint-Maurice et sous l'actuel quartier d'Amiens-Nord en fait, qui est entièrement recouvert complètement sous-cavé en fait. Tous les immeubles sont construits sur un
Et dans ce quartier en fait, il y avait énormément de grandes ouvertures comme ça qui allaient vers des souterrains et des gros fours dans lesquels on faisait brûler la pierre qu'on extrayait de ces souterrains, la craie, pour faire de la chaux en fait, pour construire la ville d'Amiens.
Et donc c'était un endroit très peu fréquenté la nuit où les vagabonds pouvaient aller dormir sans trop de risque d'être contrôlés par la police. Les fours, ils étaient allumés en permanence, donc ça faisait une source de chaleur intéressante en hiver. Et quand la police arrivait, il y avait toujours possibilité de partir dans les carrières, donc c'était des grandes galeries souterraines, et donc échapper comme ça à la police. Oui, aussi se réchauffer ou être plus au frais en été. Et parfois, il y avait même moyen de travailler sur place, en fait, puisqu'il y avait toujours besoin de portefeuilles, on appelait ça, c'était les manutentionnaires de l'époque, quoi, pour porter la pierre, etc., entretenir les fours. Et donc, c'est un lieu où on le retrouve souvent mentionné dans les rapports de police parce que les nuits où la police s'ennuyait ou quand le préfet leur demandait un peu plus d'arrestations de vagabonds, hein, la politique du chiffre, c'est pas Sarkozy qui l'a inventé, et ils allaient faire des rafles comme ça. Ils utilisent vraiment ce mot, les rafles.
au four à chaud, comme ça, pour essayer d'arrêter un maximum de vagabonds d'un coup.
Rapport du garde champêtre du Faubourg Saint-Maurice, adressé au maire d'Amiens en janvier 1865. Monsieur le maire, les carrières abandonnées sont souvent le refuge de vagabonds et de femmes de mauvaise vie qui fréquentent les militaires de la garnison, qui de cette manière échappent à la vigilance de la police. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en juger moi-même. J'en ai vu sortir un soir, je les ai comptés au nombre de 17. Aussitôt qu'ils ont vu que je venais sur eux, ils sont rentrés et disparus dans la carrière. C'étaient tous de jeunes gens de 16 à 18 ans. Il arrive aussi très souvent que les femmes dont je parle plus haut amènent avec eux des jeunes gens de la ville, principalement de jeunes ouvriers de 16 à 17 ans, pour y faire leur commerce de débauche avec toute sécurité, car il est impossible de les surprendre, à moins de se trouver en nombre suffisant pour garder la sortie et avoir quelqu'un qui connaisse parfaitement tous les détours de ces carrières. Tout cela n'aurait pas lieu si M. de Beausseau se conformait au règlement qui existe et qui en ordonne la clôture.
Ta maison brûle, mon bon ami.
Fus-je qui répond, j'ai clé sur mi. Vous disiez, ou Dieu qu'il est bête, lié à nos chances têtes, tout beau il répète.
Tu me crois à nouer.
Mais su tarnard,
vloche que j'ai qu'à franc picard. Enfin pour finir, t'es bien, qu'un picard veut un parisien. Sur sa douille vous permet de rire, passez chaud tant pis, sauve-nous est à vieillir. Il vous foudrouille sa pied quelque part, vloche que j'ai qu'à franc picard.
Nous l'avons compris avec Florian. Le phénomène du vagabondage est au cœur d'une politique de répression dans la première moitié du XIXe siècle. L'urbanisation et l'industrialisation des villes sous l'Empire intensifient la politique de répression envers les populations croissantes des mendiants et vagabonds, perçus alors comme des individus dangereux et à contrôler. 40 ans plus tard, en 1901, à la période dite de la Belle Époque, ce phénomène se généralise tout en prenant une forme nouvelle à travers l'occupation par des marginaux d'un quartier populaire de la ville d'Amiens. Mais ça, c'est une autre histoire.
Hello! Hey, oh, where are you from?
Oh, you're from Picardy.
What?
Oh, you're from Picardy.
What?
Oh, you're from Picardy.
Oh, you be just like the men of the Picardy.
Yes, it's ugly, except on the cliff of the Bédoche.
But so where do you live then?
Bah, oh, you be Picardy.
Just like the men of the Picardy.
Oh, oh yes, enfin, oh, oh. Oh, you're from Picardy.
The misery in the world, and I see qu'ils sont à faire. Alors qu'on appelle le camionneur, hein? Il faut avoir des hôtes de permis. Alors c'est why? Hein? Why me? Hein? Why Picardy? Bon, alors, on se sait, but you and me, maybe we can build a strong relationship based on a mutual understanding. And be OP,
OP Picardy. If you stay with me, please stay.
Cause I think I forgot to close the gas. Oh, Jean-Claude, I must go back to Saint-Étienne.
Oh, oh, I know I should not lie, but my name is not Jean-Paul. It's William.